Bonsoir et bienvenue dans cette émission Processus de paix dans l'Est, la RDC, des équipes techniques de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont paraphé le mercredi 18 juin 2025 à Washington les textes de l'accord de paix en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Hooker en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix le 27 juin 2025 par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. D'après un communiqué du département d'État américain, l'accord a été élaboré à l'issue de 3 jours de discussions constructives sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques entre la RDC et le Rwanda. L'accord comprend entre autres des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non autarctiques, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire. Quelle analyse faites-vous de l'évolution du processus de paix dans l'Est du pays? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Joseph Nkoyi, il est député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Il est rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Bonsoir honorable Joseph Nkoyi.
Bonsoir mon frère, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi, bonsoir à mes co-adversaires retenus ce soir.
Et aussi Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, le parti membre de la coalition Lamouka. Il est notable du Nord Kivu. Bonsoir honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux co-débatteurs et à tous nos auditeurs.
Et en ligne, Martin Ziakwa, il est docteur en relations internationales et professeur d'université. Il est chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC. Il est auteur d'un article scientifique sur la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, analyse stratégique du soubassement d'un accord de paix en gestation. Bonsoir Martin Ziakwa. Bonsoir, professeur Martin Zoko.
À mes débatteurs.
Merci et bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit, les experts congolais et rwandais ont paraphé hier mercredi 18 juin 2025 à Washington un document préparatoire à un accord de paix sous la médiation des États-Unis et en présence de la sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques Alison Hooker. Les détails avec Martial Papimukeba.
Ce document, paraphé au terme des 3 jours de discussions sous médiation américaine, s'appuie sur la déclaration des principes adoptée le 25 avril dernier entre la RDC et le Rwanda. Il comporte 5 grandes dispositions. Le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, ainsi que la mise en place d'un cadre d'intégration économique régionale. Le texte prévoit également l'instauration d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, incluant les CONOPS, concept des opérations, un cadre d'échange des renseignements négocié à Luanda en octobre 2024. Selon un communiqué du département d'État américain, ce document sera officiellement signé par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda le 27 juin en présence du secrétaire d'État américain. Une signature présidentielle entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en présence des Donald de Trump est envisagé pour le mois de juillet. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papimukeba, honorable Joseph Nkoyi. Je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Et vous êtes aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Quelle vous inspire la signature de cette première mouture en vue d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda?
Bien, merci beaucoup, Monsieur Guy. Merci une fois de plus pour cette invitation. J'ai toujours dit que c'est toujours une responsabilité de parler des questions qui concernent la vie nationale, la vie du peuple congolais. Et comme homme d'État, nous sommes appelés à faire des analyses objectives pour le besoin du peuple congolais. À mon avis, je pense que cette signature tend à augurer une issue pacifique entre la RDC et le Rwanda, qui se sont caractérisés depuis voici 30 ans dans une guerre injuste de la part du Rwanda imposée à son voisin, la RDC. Et la RDC qui a toujours affiché une position pacifique, c'est-à-dire parvenir à une issue pacifique dans le cadre de ces conflits. Et cette signature, à mon sens, traduit cette volonté pour les deux États de pouvoir harmoniser les relations, de pouvoir, en dépit de toutes les atrocités que nous avons enregistrées depuis les débuts de ces conflits, à pacifier leurs relations. Il faut dire que, au-delà de toutes les divergences que nous pouvons voir, au-delà des intérêts qui constituent la pierre angulaire des relations internationales ou des relations entre États, nous, comme pays, nous sommes condamnés à être le voisin du Rwanda, de même que le Rwanda. Et de ce fait, nous sommes appelés, quelles que soient, comme je le dis, toutes les divergences qui puissent avoir lieu, appelés à construire un bon voisinage. Et donc, moi, je peux, à mon niveau jusqu'ici, saluer cela, parce que je me dis que nous sommes appelés au niveau de la région, au niveau de l'Afrique et du monde à vivre en paix. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la RDC est au cœur de beaucoup d'enjeux sous-régionaux, régionaux et internationaux, et que de ce fait, si la RDC est dans une position d'instabilité permanente, cela aura des effets collatéraux sur l'ensemble de la région. Et je pense que cela va de l'intérêt de tous les pays de la région, de l'Afrique entière et même du monde, de pouvoir assurer ou mettre en place tous les efforts nécessaires pour parvenir à la stabilisation de la région.
Et cette signature, la signature de cette mouture, peut-on la considérer comme étant une évolution vers la conclusion d'un véritable accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ou c'est tout simplement une étape normale dans un processus donné?
Moi, je considère que c'est une avancée significative, parce que il y a la première étape depuis que les discussions ont commencé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Nous avions commencé par la signature d'un accord des principes qui a porté sur un certain nombre de lignes maîtresses à suivre. Et aujourd'hui, nous enregistrons je ne dirais pas la signature, mais les paraphes des sept moutures qui constitue un élément, une avancée vers la signature d'un accord de paix. Évidemment, comme on dit toujours en droit international, les relations entre les États sont fondées sur les intérêts et que les États sont des monstres froids. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est derrière la tête du Rwanda, mais je pense que nous avons ici intérêt, où le Rwanda comme la RDC ont tout intérêt à pouvoir cultiver un climat de paix pour favoriser le développement non seulement de ces deux États, mais aussi de toute la région. Comme je pense que vous l'avez suivi autant que moi, ces processus de Washington vient essayer un peu d'adopter une approche globalisante, parce que j'ai suivi que Washington a fait appel aussi à Doha pour prendre ces volets-là des groupes armés, justement pour avoir un texte qui prend en compte tous les aspects des conflits, parce que, comme vous le savez, les processus de Washington, c'est un peu les harmoniser les différends qu'il y a au niveau des États, c'est-à-dire entre la RDC et le Rwanda, alors que le processus de Doha, c'était entre les groupes armés. Et lorsque le processus de Washington appelle en écho Doha, c'est justement pour que nous puissions parvenir à l'harmonisation de toutes les initiatives de paix et que chaque intervenant dans le cadre de ces conflits puisse trouver sa part et puisse se mettre devant ses responsabilités pour justement enterrer l'âge de la guerre.
Voilà, ces documents préparatoires qui a été signé hier suscite beaucoup d'interrogations par rapport à certains points, n'est-ce pas, qui sont contenus, notamment le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités. Cela signifie, en d'autres termes, n'est-ce pas, honorable, le retrait, n'est-ce pas, des troupes rwandaises et des troupes de la rébellion des territoires qu'ils occupent en RDC. Mais là où, c'est là même la question, là où la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a un caractère contraignant, n'a pas pu aider la RDC à obtenir les retraits de ses troupes, vous pensez que cet accord suffira-t-il pour obtenir les retraits de ses troupes?
J'ai toujours considéré que les résolutions des Nations Unies sont des textes dont l'exécution est conditionnée par la volonté des partis, c'est-à-dire la volonté des partis qui sont concernés par cette résolution, par ces résolutions-là.
Par la bonne foi des partis.
Par la bonne foi, exact. Et donc, on pouvait bien prendre cette résolution, mais s'il n'y a pas des dispositions d'opérationnalisation, de mise en œuvre de cette résolution, la résolution va rester dans les tiroirs, va rester lettre morte. Et quand vous analysez les contenus de la résolution, la résolution n'engage pas les partis d'une certaine manière, parce que les partis ne sont pas signataires à cela. Alors que pour moi, je considère que un accord, c'est un engagement de parti qui entraîne une responsabilité. Et lorsque on engage sa responsabilité, je veux dire, lorsqu'on signe, on met en cause sa responsabilité. Et moi, je peux plus donner de la chance à l'accord que à la résolution, parce que dans l'accord chaque partie trouve son intérêt ou trouve son bien-être. Et donc si il y a bonne foi, il y a bonne foi de la part du Rwanda qui depuis que ces conflits ont commencé n'a toujours pas affiché cette bonne foi là de pouvoir parvenir à l'issue au Pacifique, contrairement à la RDC. Je pense que cette fois-ci ça peut marcher. Donc je donne beaucoup plus de chances à l'accord qu'à la résolution. Cependant, il y a lieu de souligner que cela ne devait pas être perçu par le gouvernement congolais comme je veux dire comme un cadeau ou comme la fête de toutes choses, mais plutôt comme un élément qui permet, qui donne un temps à l'organisation de notre armée au niveau interne, de notre système de défense, pour justement donner et la chance à la protection de notre intégrité par nos forces armées. Parce que vous savez que les militaires ou les forces armées ont pour mission principale la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Et la protection de l'intégrité territoriale n'est pas le fait de l'extérieur, mais plutôt le fait de l'armée. Et donc, je considère que ces moments doivent être mis en profit pour le gouvernement congolais à réorganiser le système de défense, à mettre à condition les forces armées de la République pour parvenir à la protection de l'intégrité territoriale de notre pays.
Vous êtes parlementaire. Quand vous suivez ce qui se passe à New York et à Doha, on sent une certaine opacité. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que parlementaire, pour que le peuple congolais, demain, ne puisse pas subir, n'est-ce pas, la volonté de ceux-là qui ont l'avantage sur le terrain militaire? Qu'est-ce que vous faites?
Il faut
parce
dire
qu'il y a une certaine opacité, on ne sait pas comment les choses évoluent, on ne sait pas sur quoi les partis sont en train de discuter. Qu'est-ce que le Parlement fait par rapport à ça?
Il faut dire que du point de vue constitutionnel, c'est l'exécutif qui conclut les accords. Évidemment, il y a certaines limites pour un certain nombre d'accords qui demandent l'intervention préalable ou l'intervention en amont et en aval du Parlement. Nous avions déjà au départ à formuler des critiques objectives fondamentales dans le cadre de cette démarche ou de ce processus. En réalité, on devrait, comme je le dis d'ailleurs dans ce studio, qu'on devait associer des personnalités qui connaissent les dossiers, qui ont été à la base de ça. Les parlements qui, je veux dire l'Assemblée nationale particulièrement, qui représente le peuple congolais, doit être informé de toutes les questions qui concernent la vie du peuple congolais. Mais quand cela ne tienne, le plus important, c'est que nous puissions arriver à obtenir la paix, que je peux considérer de précaire, parce que la vraie paix, c'est lorsqu'on se prépare. Et pour se préparer, il faut mettre à condition les forces armées, mettre à condition les services de sécurité au niveau interne.
Merci Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, le parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable du Nord Kivu. Comment vous également vous analysez la signature de ces documents préparatoires?
D'abord, il faut dire que la population de Bukavu, la population de Goma, toutes ces populations sous occupation, aspire ardemment à la paix. Et donc toute initiative susceptible d'apporter la paix, de libérer ces populations du joug de l'occupation, elle est la bienvenue. Néanmoins, il faut quand même rappeler que en 2024, le processus manqué de Luanda avait déjà aussi connu des étapes similaires à la signature de ce texte préparatoire. Vous vous rappelez que les responsables des services de sécurité du Rwanda et de la RDC s'étaient déjà réunis à Rubavu à la fin du mois d'août 2024, que les deux ministres des Affaires étrangères discutaient déjà d'un texte projet d'accord de paix au mois de septembre. Il était annoncé la signature d'un texte d'un accord de paix le 15 décembre 2024, et tout a capoté pour que par la suite nous connaissions la détérioration jusqu'à la destruction des vies humaines, de l'économie de Goma, de Bukavu et à l'emprasement actuel. Et donc, qui est signature de ce texte, il ne faut pas que l'on se fasse beaucoup d'illusions. De la même manière que l'avortement du rendez-vous du 15 décembre est dû, selon les communications qui sont venues de part et d'autre, du fait que le Rwanda avait posé comme préalable que l'on insère dans le texte du projet d'accord de 2024 le principe des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23, principe que le gouvernement n'avait pas accepté à ce temps-là, aujourd'hui il n'est pas exclu que, à nouveau, notamment par Doha, vous avez suivi la FCM23 au début du mois de mai, annoncer qu'il s'est retiré de Doha parce qu'il y aurait des préalables auxquels le gouvernement de la République devait d'abord répondre. J'ai appris que les délégués du M23 sont retournés à Doha. Est-ce pour dire que le gouvernement a répondu favorablement à ces préalables? Est-ce que c'est un acquis?
Et quels sont ces préalables?
parmi ses préalables, l'M23 disait que il devait y avoir libération de ces cadres, il devait y avoir levée, n'est-ce pas, de la résolution de l'Assemblée interdisant l'intégration des groupes armés dans l'armée, dans notre armée. Il y avait autant de préalables. Et comme vous l'avez dit, il y a opacité, personne ne nous dit, étant donné que le pourparler de Doha aurait pris, de quelle manière le gouvernement a répondu à ça. Bref, que l'on ait signé ce texte préparatoire, c'est un pas vers le sens positif, mais nous devons encore être vigilants et éviter que ce que nous avons connu en 2024 n'arrive. Deuxièmement, je note que le gouvernement privilégie une approche bilatérale, c'est-à-dire négocier directement avec les belligérants, signer un accord avec le Rwanda, c'est le processus de Washington, et par le processus de Doha, parvenir à un accord avec l'AFC M23, en ignorant complètement la donne interne. On est ici dans les schémas de 2009, 2008, 2009, où Kabila a signé un accord avec Paul Kagame, ce que l'on a appelé l'accord secret, qui a engendré la fameuse opération Umojawetu, de triste mémoire. Et simultanément, le gouvernement, par Raymond Tshibanda, a signé l'accord avec le CNTP, le fameux accord du 23 mars 2009. C'est le même chemin que reprend l'administration Tshisekedi, et dans l'opacité. Or, nous savons que ce genre d'accords peuvent donner, l'honorable l'a bien dit, il peut être précaire, et peut comme on a signé l'accord de mixage en 2006, on a pensé que le CNTP s'arrêtait par là. On a signé l'accord de l'intégration accélérée en janvier 2009. On a pensé que ça se terminait par là. On a concédé à l'opération Umojawetu. On a pensé que la paix venait. Par contre, tant que la gouvernance interne reste problématique, eh bien, les conditions d'une paix durable ne peuvent jamais être réunies. Raison pour laquelle, pour nous, nous considérons que si, effectivement, par ce processus de Washington, on peut obtenir l'arrêt des hostilités, il est impérieux que le processus interne piloté par les évêques et les pasteurs soit déclenché pour que nous réunissions les conditions de la construction des instruments d'une paix durable. Faute de quoi, eh bien, ce ne serait que ce ne serait que de trompe-l'œil. Et ensuite, l'autre élément qu'il convient de dire, c'est que comme pour la déclaration de principe du 25 avril 2025, les comptes rendus faits par le département d'État américain nous rappellent que ce texte préparatoire reprend les mêmes faiblesses relevées de la déclaration de principe. Et j'ai l'impression que et les gouvernements et les médiateurs font totalement fi de toute l'opinion publique congolaise. La classe politique a émis des réserves. La société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu, la CENCO, il y a eu une déclaration signée conjointement par le prix Nobel Mukwege et d'autres autres personnalités pour relever les faiblesses. Parmi ces faiblesses, je note que ce texte préparatoire, comme la déclaration de principe, ignore totalement le fait que la RDC est victime d'une agression. Il n'y a pas un agresseur d'un côté, un agresseur de l'autre. C'est un accord qui est signé entre deux partenaires. Et donc, tous les crimes commis par les Rwandais sont absous. Et ça, c'est une injustice. Nous revenons dans la logique de l'accord de Lusaka. On a considéré que l'agression de la RDC était victime, était une guerre de légitime défense de la part des agresseurs, et les Américains sont dans la même logique. Deuxième faiblesse, lorsque vous lisez le résumé autour du texte préparatoire, il vous parle des points autour desquels des dispositions étaient formulées. Rien de ce qui est en rapport avec la justice à faveur des victimes. Il n'y a pas de garantie de non-répétition. Dans le texte, on reprend qu'on a adopté les concepts opérationnels de Luanda d'octobre 2004 relatifs à la neutralisation des FDLR. 2024. Ça montre que les États-Unis épousent totalement l'argument du Rwanda d'après lequel le Rwanda intervient en RDC au motif que les FDLR sont là. Et ce discours-là, lorsque les États-Unis valident ça, eh bien, le piège, c'est lequel? C'est que le Rwanda se réserve le droit de revenir régulièrement, continuellement. C'est le même discours depuis 96, depuis 95, jusqu'à ce jour. Et le Rwanda dira toujours, eh bien, vous n'avez pas encore neutralisé le dernier FDLR.
Et donc, on n'aura pas résolu le problème des fonds.
On a. Donc, bref. En dépit du fait que la RDC a offert tous les sous-sols congolais aux États-Unis, vous allez constater que les États-Unis adhèrent totalement à la thèse du Rwanda. Mais la thèse que le Rwanda a toujours défendue depuis 1995 jusqu'à 2025.
Justement, honorable Kasekwa, la mouture qui a été signée hier contient les dispositions suivantes: le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire. Évidemment, comme vous l'avez dit, hein, il n'y a pas des aspects sur la justice, mais aussi les points sur le développement économique entre les deux pays. Pourtant, il a été dit que c'est pour les retours de la paix en RDC et la promotion de l'économie entre les deux pays.
Toute l'opinion publique congolaise s'est levée lors de la signature de la déclaration de principe qu'il n'est pas question de gratifier le Rwanda par une congestion des ressources naturelles de la RDC. Ici, le texte préparatoire revient autour de ce concept-là, de l'intégration économique sous-régionale. On ne nous dit pas encore dans le détail le changement qui a été apporté, alors que c'est la reconstruction économique des zones détruites par la guerre du fait de l'agression qui permettrait de résorber tous ces jeunes au chômage, tous ces jeunes victimes de guerre, mais comme nous les lisions déjà dans la déclaration, eh bien, l'on voulait donner la priorité, n'est-ce pas, aux pays agresseurs et considérer la RDC comme centre d'extraction des matières premières. Et le texte préparatoire ne nous révèle pas en quoi on a tenu compte de toutes ces observations soulevées par l'opinion. Enfin, ici, de la même manière que lors de l'adhésion précipitée de la RDC à l'EAC, il y a eu opacité. On a menti au peuple congolais qu'il s'agirait d'une mission offensive, que par l'entrée des troupes kenyanes par l'Ouganda, eh bien l'M23 serait neutralisé. Et par la suite, le leadership congolais n'a pas été en mesure d'expliquer à l'opinion publique congolaise quelles étaient les limites de la SADC. Nous insistons curieusement à la même opacité dans la démarche, que ce soit celle de Doha, que ce soit celle de Washington. L'opinion publique congolaise aura du mal à s'approprier ce processus, et lorsque les critiques sévères vont se dresser, le leadership sera encore à nouveau incapable de convaincre l'opinion.
Merci.
Et nous allons revenir à la case de départ, comme nous l'avons connu avec les initiatives et à SADC et Samir Dia aussi qui ont précédé.
Merci Martin Diakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université. Vous êtes chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC, auteur d'un article scientifique sur la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda, analyse stratégique du soubassement d'un accord de paix en gestation. Votre analyse par rapport à ce processus de paix en RDC?
Je pense que c'est important de noter que l'impact d'un accord, notamment de paix, est fonction de plusieurs éléments. Il s'agit entre autres de la pertinence des réponses apportées aux causes profondes de la belligérance, de l'efficacité de sa mise en œuvre par les parties prenantes, du rapport de force en présence, ainsi que des perceptions des parties prenantes. qu'il faut le reprendre ainsi. Et il est donc important de souligner que la cessation des hostilités et l'instauration de la paix ne sont pas forcément des termes synonymes. J'ai comparé les éléments inscrits dans le communiqué d'hier du département d'État à ceux figurant dans la déclaration du 25 avril sur la déclaration des principes signée par la RDC et le Rwanda. Il est important de noter qu'il y a eu 6 points dans la déclaration du 25 avril et 4 points dans la déclaration, dans le communiqué d'hier. Et j'ai le sentiment que l'accent est beaucoup plus mis sur la cessation des hostilités plutôt que sur la construction d'une paix durable. Naturellement, la construction d'une paix durable requiert la cessation des hostilités. Mais il est important de faire remarquer que la cessation des hostilités ne signifie pas parvenir forcément à une paix durable. Et pour parvenir à la paix durable, il faudrait notamment questionner les causes profondes. Et lorsque l'on questionne les causes profondes des conflits armés et de la conflictualité dans l'est du pays, il y a lieu de faire remarquer que nous sommes en face de plusieurs niveaux de responsabilité et d'action. Il y a le niveau local, le niveau provincial, le niveau national, le niveau régional et le niveau international. Ce qui se passe à Washington et à Doha relève des niveaux régional, international, puisque les États-Unis, on les situe au niveau international, le Rwanda, on les situe au niveau régional. Dans une certaine mesure, la RDC est aussi au niveau national et le 1-23 est entre le niveau national et le niveau régional, mais l'on ne prend pas en charge le niveau local. Et pourtant, le vrai problème se pose à la base. C'est là-bas qu'il y a problème de cohabitation pacifique entre les communautés locales. C'est dire qu'on ne pourrait pas parvenir à la paix tant que l'on n'aura pas pris en charge les perceptions des populations locales. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est le cadre idéal à Washington de prendre en charge tous ces niveaux de l'échelle? Non. C'est plutôt au gouvernement qui a la responsabilité de penser la paix, de programmer la paix, de prendre des dispositions utiles pour la construction de la paix au travers de ces différents niveaux. Il faut noter que jusque-là, il n'y a aucune puissance qui n'a exercé des véritables pressions sur le Rwanda pour obtenir le retrait de ses troupes du territoire congolais. Officiellement, il n'y a aucun cadre, je dirais même le Conseil de sécurité dans la résolution 2773 ne reconnaît pas ou ne dit pas constater que la RDC est victime d'une agression, puisque cela aurait des conséquences en vertu notamment des articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies, puisque en cas d'agression, il y a des sanctions contre l'État agresseur. Plutôt que de rester sur le statu quo, je pense que le gouvernement a intérêt de capitaliser une opportunité, puisqu'il faut rappeler qu'en 2013, l'armée rwandaise s'était retirée du seul fait des pressions diplomatiques exercées par le président Barack Obama, qui avait téléphoné au président Kagame. Donc si aujourd'hui, le président Trump peut exercer la même pression sur le président Kagame pour retirer ses troupes, c'est un pas important, mais qui n'est pas suffisant pour la paix. C'est important pour la cessation des hostilités.
mais ce n'est pas suffisant pour la paix. Ce que nous cherchons, c'est non seulement la cessation des hostilités, mais aussi et surtout la construction d'une paix durable.
Alors,
Il faut peut-être rappeler, si vous me permettez, un dernier mot.
Allez-y.
Juste un dernier mot. C'est que dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, le chef de l'État avait promis d'organiser un forum national de réconciliation. Et je suppose, ou je suis tenté de penser que la réconciliation qui est la plus importante et urgente, ce n'est pas celle concernant d'abord les politiques à Kinshasa, mais c'est d'abord celle concernant les communautés locales. Donc c'est peut-être important que cette proposition du chef de l'État soit remise sur le tapis.
Oui, professeur, si comme vous le dites, vous venez de le dire, l'honorable Kasekwa l'a aussi relevé, si le fait de ne pas tenir compte, n'est-ce pas, de la donne interne peut constituer des difficultés pour aboutir à un véritable accord de paix entre les deux pays, quelles sont les autres difficultés, quels sont les autres obstacles, n'est-ce pas, et qui feraient qu'on soit, n'est-ce pas, incapable de parvenir à un véritable accord de paix entre les deux pays?
Je vous ai dit qu'un accord de paix, ce n'est pas simplement un document signé par les parties. Un accord de paix, c'est une entente pour un nouveau départ. Et cela dépend du rapport de force, mais ça dépend aussi des perceptions. C'est-à-dire qu'on peut arriver à la signature d'un accord de paix, mais sans forcément parvenir à une convergence des perceptions entre les parties en présence sur ce qui devrait être fait. La crainte, c'est que justement, l'accord de paix, plutôt que de favoriser une paix durable, puisse constituer une base d'une stabilité de l'instabilité au profit de l'une des parties. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est extrêmement important, avec tout le respect pour l'honorable sur le plateau, qui a dit qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière la tête du Rwanda, je pense qu'il est de notre responsabilité de savoir ce qu'il y a derrière la tête du Rwanda pour négocier conséquemment en déjouant notamment des pièges pour parvenir à une paix durable. Moi, je pense que nous devons normaliser les postures du Rwanda en tant qu'État, en relation internationale. On n'a pas à se plaindre, on n'a pas à porter de jugement. Nous devons nous assumer. Je pense qu'il est possible que nous puissions y parvenir.
Comment on peut arriver à normaliser les postures du Rwanda lorsque vous avez évoqué, n'est-ce pas, deux points importants, c'est les rapports de force et puis la perception des partis. On sait qu'aujourd'hui, sous le terrain des opérations, bon, les rapports de force sont en faveur du Rwanda. Et par rapport à la perception, les deux pays ont des problèmes de percevoir certaines questions, notamment celle des FDLR, notamment celle des réfugiés. Comment on peut arriver, comme vous les prenez, comment on peut arriver à normaliser la posture du Rwanda?
Je pense qu'il faudrait d'abord comprendre ce que nous avons comme perception de ce problème. Lorsque je suis les discours politiques, nous saluons, j'entends le gouvernement au travers de son porte-parole, saluer des deux mains et des deux pieds les rapports de groupes d'experts des Nations Unies, dans lesquels sont repris les extraits du soutien du Rwanda, des preuves du soutien du Rwanda au M23, des preuves des interventions directes du Rwanda dans l'est du pays. Mais je me dis, est-ce que le gouvernement se rend compte qu'en saluant ce rapport, il reconnaît en même temps les extraits qu'il y a dans ce rapport qui sont contre les intérêts de la République, notamment ce que le groupe d'experts relève susceptible de conforter la position rwandaise en ce qui concerne notamment l'activisme des FDLR dans l'est du pays? Et je n'ai pas lu un communiqué dans lequel le gouvernement a émis des réserves sur certains extraits. Ça signifie que nous ne prenons pas le problème dans sa globalité, mais nous choisissons les éléments qui nous confortent, laissant ainsi le soin à l'ennemi de développer ce que nous nous négligeons pour conforter son argumentaire. Et lui a des réseaux à l'international, autant nous avons des réseaux à l'international, mais il est en train beaucoup plus de surfer sur ce qui est de l'ordre de la persuasion, alors que nous, nous sommes en train de mener des démarches dans l'ordre de convaincre. Pour être beaucoup plus concret, lorsque le Rwanda dit que les FDLR sont génocidaires, et la RDC dit que le M23 est un mouvement terroriste, entre génocidaire et terroriste, qu'est-ce qui est plus susceptible de toucher l'âme internationale? C'est le génocidaire. Mais dans le rapport du groupe d'experts, il y a des éléments sur lesquels le gouvernement avait la latitude d'émettre des réserves. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Donc c'est une preuve que dans notre démarche, il y a des faiblesses et des mauvaisetés que l'ennemi est en train de capitaliser. Il faudrait peut-être qu'on se remette en cause pour voir dans quelle mesure réduire les brèches que l'ennemi est en train d'exploiter dans son discours, partant justement de ce que nous nous sommes en train de dire et de faire.
Merci.
Ça serait déjà un pas important.
Merci, professeur. Nous allons maintenant donner la parole, n'est-ce pas, aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Et là, pour l'honorable Joseph Koï, nous allons écouter, n'est-ce pas, le point de vue de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Japhet Eunga depuis la ville de Kinshasa. Le processus de Washington est resté l'unique processus qui peut donner la paix au conflit de l'Est du pays. Mais pour ce qui concerne le désarmement des rebelles, à mon avis, cette question était un peu perplexe car les rebelles ne vont pas accepter de libérer ces zones. Prévenez que l'FC M23, souvent ils disent qu'ils ne sont pas concernés dans ce processus car ils ne sont pas représentés et l'accord qui sera conclu entre ces deux gouvernements ne les concerne pas. Par exemple, on avait dit que les troupes rwandaises puissent quitter le territoire congolais, mais jusqu'à l'heure qu'il est, les troupes rwandaises se trouvent toujours en RDC. De ce fait, nous demandons au gouvernement congolais d'imposer le départ des troupes rwandaises sur le sol congolais avant de signer l'accord.
Honorable Joseph Koï.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Guy. Si vous permettez de relever quelques éléments de précision, on va pouvoir rencontrer la préoccupation de l'auditeur, Monsieur Japhet. J'ai suivi mon frère Kasekwa, qui a reproché ou qui a relevé quelques faiblesses à l'endroit du processus. Il a notamment évoqué le fait que dans cet accord-là, on ne cite pas ou on n'a pas clarifié le fait que la RDC c'est le pays agressé et que le Rwanda c'est le pays agresseur. Il n'y a pas de dispositions relatives à la réparation de toutes les tous les dégâts ou prise en compte de toutes les victimes et l'intégration du CONUS. Bon, je me dis ceci. Il faut pas oublier l'idée majeure qui est celle-ci, que les États-Unis ne constituent pas un organe judiciaire, même au niveau international, pour ordonner la réparation en cas de dégâts ou dans les cas du conflit. Donc il faut faire la part des choses. Ici, les États-Unis sont en train d'assurer une mission de bons offices et non s'est transformé à un tribunal ou à une cour internationale devant laquelle on peut solliciter la réparation des deux préjudices. Et à ce niveau, je dois rappeler qu'il y a au niveau des Nations Unies, l'institution qui s'occupe de tout ce qui est comme plainte à ce qui concerne les violations de droits de l'homme. Vous savez que les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme avaient déployé une mission d'enquête sur Goma justement pour parvenir à l'établissement des ou à la récolte de tous les éléments de preuve pouvant lui permettre d'envisager d'autres mesures à ce qui concerne la réparation. Et donc, ce n'est pas devant les États-Unis d'Amérique que la RDC va demander la réparation. Et aussi, le fait que les États-Unis...
Mais il s'agit d'un accord, n'est-ce pas, et que l'avenir du pays va dépendre aussi de cet accord-là. C'est-à-dire que tout doit être fait maintenant. C'est comme on dit, on est à la croisée des chemins. Tout ce qui sera fait maintenant, c'est ce qui va conditionner, n'est-ce pas, l'avenir du pays. C'est pourquoi il faut évoquer notamment ces genres de questions qui touchent à la justice.
La réparation d'un préjudice subi ne se demande pas devant n'importe qui. Il faut saisir les organes compétents et ces organes-là vont déployer tous les dispositifs pour cette fin. Et je ne vois pas sur quelle base les États-Unis vont s'octroyer le droit de se transformer à un tribunal ou à une cour internationale pour ordonner la réparation.
Ils sont facilitateurs, ils peuvent proposer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut répondre à la préoccupation de l'auditeur?
Oui. Si vous permettez une minute avant de répondre, j'aimerais relever par rapport à l'intervention du professeur. Il faut retenir qu'il n'y a jamais jusqu'ici une jurisprudence où un État a imposé aux deux autres États en conflit une paix durable. Non. Les États, comme je le dis, se fondent sur les intérêts. Et ici, les États-Unis ne font que le travail qu'ils doivent faire. Et donc, si nous avons besoin de construire une paix durable, on doit se préparer au niveau interne. Vous savez qu'il y a une maxime qui dit « Qui veut la paix, prépare la guerre ».
Apparemment, le régime de Kinshasa néglige la donne interne, comme l'a dit...
Oui, je vais y revenir. J'en arrive. Je l'ai dit ici au départ, que la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda, et même au niveau interne, doit être comprise à deux niveaux. Il y a l'approche au niveau horizontal, c'est-à-dire entre la RDC et le Rwanda, et au niveau vertical, c'est entre le gouvernement et les groupes armés. Ne tombons pas dans la Libye du Rwanda, qui a toujours dit que les conflits à l'est de la République, c'est un conflit, ce sont des conflits congolo-congolais. Il faut retenir ici que la RDC fait l'objet d'une agression de la part du Rwanda qui s'appuie sur quelques éléments au niveau interne ou quelques alibis au niveau interne. Il faut pas oublier que l'agression que subit la RDC aujourd'hui, c'est une agression aux fins expansionniste de la part de ses agresseurs. C'est-à-dire, le Rwanda et tous les autres pays cherchent à se créer une zone d'influence au fin de l'exploitation irrégulière des minerais congolais. Il faut rappeler aussi que le retrait, parce que le professeur a parlé du fait que jusque-là, il n'y a aucun texte, aucun pays qui a déclaré
le Rwanda
a retiré ses troupes. Je dirais que c'est pas vrai, parce que la résolution 2773 a demandé le retrait des troupes rwandaises. Et lorsque vous suivez toutes les réunions qu'il y a eu au sein du Conseil de sécurité, les grandes puissances, disons la majorité de pays, se sont prononcées dans ce sens, c'est-à-dire ordonner le retrait des troupes rwandaises sur les territoires congolais.
Mais le Rwanda ne s'est jamais retiré de la RDC.
Ça c'est un autre aspect. Voilà. Ça, c'est un autre aspect de choses. Mmh. Je réponds maintenant à l'auditeur.
Oui. Rapidement, parce que
la question du retrait des troupes rwandaises l'encadrement de tous les groupes armés s'est résolu ou est encadré par les programmes PDD-RCS. Je pense, lorsque dans cet accord on préconise la mise en place ou le désarmement conditionnel, c'est-à-dire nous rentrons exactement dans le cadre de la mise en œuvre du programme PDD-RCS qui évidemment œuvre pour la réinsertion de tous ces groupes armés. Merci. Et si il y a un groupe armé qui aurait d'autres revendications, eh bien, là, c'est maintenant une autre approche de choses.
Merci.
Et donc, la logique de choses par rapport à la prise en charge des groupes armés, c'est les PDD-RCS.
Merci, on a compris. Honorable Jean-Baptiste Kassekwa, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bounia.
Alpha Ben Sirac depuis la ville de Bounia. L'évolution récente du processus de paix dans l'est de la RDC, marquée par le paraphe de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, constitue une avancée diplomatique majeure après des années de tensions armées et de crises humanitaires. Pour la première fois depuis des années, les deux États affirment une volonté commune de dialoguer sur des bases concrètes et multilatérales en présence d'un acteur neutre et influent comme les États-Unis. Cela témoigne d'une reconnaissance mutuelle des responsabilités, mais aussi d'une volonté de briser les cycles de méfiance. Comme l'écrivait Raymond Aron, la paix est le fruit d'une lucidité partagée. La disposition sur le désengagement et le désarmement des groupes armés est fondamentale. Ce paragraphe est une étape prometteuse, mais tout dépendra de la mise en œuvre effective, vérifiable et inclusive des clauses.
Honorable Jean-Baptiste Kassekwa.
Je voudrais dire, il ne faut pas que l'OCFA se dilusionne. Il est vrai que les États-Unis, en s'impliquant dans la crise, représentent un acteur majeur. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première initiative consacrant l'implication des États-Unis. C'est sous les beaux offices des États-Unis que le 9 novembre 2007, il a été signé le communiqué de Nairobi entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda relatif à la question des FDLR. Et moins de deux mois après, le Rwanda a lancé l'attaque meurtrière de Mushaki le 10 décembre 2007. Curieusement, les États-Unis n'ont pas sanctionné le Rwanda. C'est sous l'égide des États-Unis que le pourparler ayant conduit à la signature, à l'accord autour de l'opération Umoja-Wetu de janvier 2009, ce pourparler a commencé à Washington à marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est Jean Lafazer qui, en décembre 2008, coordonne la réunion des ministres de la Défense des différents pays de la sous-région pour préparer l'intervention de la fameuse opération Umoja-Wetu. Et donc, les États-Unis sont à l'origine également de l'accord même du 23 mars. Curieusement, lorsqu'en 2012, le Rwanda nous lance à nouveau la nouvelle guerre d'agression, les États-Unis n'ont pas sanctionné. Et donc, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Et comme je le disais, en dépit du fait que nous avons offert aux États-Unis tous les minerais, Trump ne s'est pas donné la peine de dire, eh bien, je tape du poing sur la table, la résolution 2773 doit être appliquée. Bien au contraire, je l'ai dit, lorsque vous lisez la déclaration de principe, vous lisez le résumé du texte préparatoire, les États-Unis adhèrent totalement au narratif du Rwanda pour justifier l'agression dans notre pays. Cette position des États-Unis date de 1994 jusqu'à ce jour, 31 ans durera, malgré le fait que nous lui offrons les minerais, les États-Unis considèrent le Rwanda comme un allié majeur qu'il ne faut pas froisser. C'est là où nous devons réfléchir autour des véritables facteurs d'une puissance géopolitique, de la puissance diplomatique. Les États-Unis, un ami en marge des réunions du Conseil de sécurité, a été pris en aparté. Il venait de Goma, démontrant l'extrême violation des droits de l'homme dans cette zone. Un Américain lui dit, messieurs, nous avons adopté la résolution 2773 juste pour faire les yeux doux. Mais ne vous faites pas d'illusions, vous n'aurez personne.
pour vous soutenir dans sa mise en œuvre. Aujourd'hui, l'honorable dit, les beaux offices et l'auditeur parle d'un acteur maître. Les États-Unis interviennent simplement parce que on a promis l'offre de minerai. Et comme je le disais, cette offre-là, au lieu que les États-Unis signent simplement avec la RDC, les États-Unis disent l'accord autour de l'exploitation de minerai doit être signé à trois, y compris avec le Rwanda. Et le Rwanda, il est absous de tous les crimes. Et malheureusement, lorsque nous disons que l'accord ne reconnaît pas le Rwanda comme agresseur, l'honorable qui nous défend dit que ce n'est pas là un problème. Mais lorsque nous disons qu'il y a une crise de manque de volonté de construction d'une paix durable qui nécessite une approche interne, l'honorable dit non, ne tombons pas dans la Libye du Rwanda. En fait, la démarche de l'administration Félix en allant vers Washington, ce n'est pas pour construire une paix durable. On veut simplement sauver un régime pendant les 2 ans qui restent. Les députés, les sénateurs eux-mêmes voudraient préserver leurs petits intérêts, peu importe la qualité, la médiocrité de l'accord. J'ai soulevé.
Merci.
On se focalise sur la crise
M23. On a temps, oui.
On ignore totalement les tueries des ADF. J'ai dit en 8 mois, les ADF dans le seul secteur de Bapéré ont tué 1300 personnes dont les corps ont été retrouvés. Plus de 3000 personnes tuées, les corps non retrouvés. Pour ça, Kinshasa ne perçoit ça par une message. Et donc Washington ne peut pas être empêché pour ça. À Djougou, à Nitori, les Mbororo, dans les Haut-Touélé, ça ne constitue pas, ça ne menace pas le régime de Kinshasa.
Merci.
La seule menace, c'est l'M23. On est prêt à tout donner. Et pour finir, il y a, en plus de Washington, il y a les pourparlers des droits. Il ne faut pas que l'OTAN l'opinion. De la même manière,
on a placé des temps malheureusement. Hein.
Si en 2009,
oui,
on a donné au CNTP tous les avantages contenus dans l'accord meurtrier du 23 mars, le CNTP n'occupait pas autant de positions de force que la FCM-23 aujourd'hui. Et donc, si nos députés, si nos sénateurs ne sont pas vigilants pour exiger qu'il y ait un contrôle sérieux dans ce qui se passe à Doha, dans ce qui se passe à Washington, demain nous serons surpris.
Merci.
D'apprendre que toute l'armée a été donnée à l'ennemi et
merci.
Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer.
Merci, on a compris. Professeur Ziakwa, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kamina.
Roger Kabulo Lumumba III, depuis Kamina, dans la province du Olomami. L'évolution du processus de paix dans l'est de la RDC franchit une étape prometteuse avec la paraffe de l'accord de Washington. Toutefois, la prudence reste de mise, car la région a connu de nombreux engagements non tenus. Si les engagements sont respectés, accompagnés des réformes internes en RDC, des coopérations sécuritaires, transfrontalières réelles et d'un soutien contenu des partenaires internationaux, la paix devient enfin une possibilité tangible.
Professeur Martin Ziakwaou.
Très rapidement, je voudrais souligner que je déplore et je condamne de manière la plus ferme l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Hein, monsieur l'honorable rapporteur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voudrais souligner en même temps que c'est une proposition en fait que je fais en tant que chercheur, que le gouvernement ferait œuvre utile d'améliorer sa communication, notamment sur les rapports du groupe d'experts des Nations Unies au sujet des FDLR, pour ne pas laisser des brèches qui exploitent le Rwanda très habilement dans les cénacles internationaux. C'est ce que je voudrais faire remarquer. Ce n'est pas de contester le fait que le pays soit agressé. Alors, loin de là. Deuxième élément. La résolution 2773 existe bel et bien, mais malheureusement sur le terrain, la situation n'a pas changé d'un iota, puisque l'application d'une résolution du Conseil de sécurité est fonction non pas de la RDC, mais plutôt de l'engagement des pays qui l'ont voté, notamment des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, adopter une résolution est une chose, la faire appliquer en est une autre. Mais pourquoi ils n'appliquent pas? C'est ça la grande question, raison pour laquelle je fais remarquer que historiquement, le M23 a été défait en 2013 avec l'appui des États-Unis d'Amérique.
Je ne conteste pas ce qu'il y a eu autour des États-Unis d'Amérique dans leur duplicité, mais ça c'est un fait historique et je le rappelle. Et je rappelle partant de cela qu'il est possible qu'aujourd'hui les États-Unis pressent le Rwanda également de se retirer. Puisqu'on a la résolution, mais aucun État n'a réussi à faire pression sur le Rwanda. L'Union européenne a pris des sanctions, mais ça n'a produit aucun résultat. Puisque la situation sur le terrain n'a pas évolué d'un iota. Et ça, c'est
d'accord.
Très clair, on doit aussi le reconnaître.
Voilà, nous sommes...
Dernier élément.
Nous sommes à la
dernier élément.
Oui, allez-y rapidement.
Tout dernier élément. En réalité, il est à craindre que cet accord en négociation, qui part en réalité d'une proposition congolaise aux États-Unis d'Amérique pour l'exploitation des ressources stratégiques en contrepartie d'une garantie sécuritaire contre le Rwanda, que la RDC qui est allée de bonne foi soit victime d'un retournement de la situation par les États-Unis d'Amérique, n'adhérant pas au schéma congolais de départ, mais profitant de ce schéma en ouvrant une brèche au Rwanda. Et c'est là où nous pensons qu'il est important qu'il y ait une mobilisation nationale. Et le gouvernement a besoin de ce soutien national que lui-même doit aussi créer.
Merci.
Pour que nous puissions non seulement obtenir la cessation des hostilités, mais surtout une paix durable.
Professeur, nous sommes à la fin de l'émission, hein, nous allons conclure. Et à votre avis, que faut-il pour consolider ou sauvegarder cet acquis, cette étape à laquelle on est arrivé? Le fait d'avoir signé cette rupture, n'est-ce pas, c'est un acquis. Comment on peut faire pour capitaliser cela afin que ça puisse nous aider, n'est-ce pas, à rétablir la paix dans la partie est du pays?
Les négociations sont en cours. Les experts ont paraffé, mais les ministres auront la latitude de modifier le texte. Et les chefs d'État également auront la possibilité de modifier à nouveau le texte. Donc il faut rester très prudent. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est important que le gouvernement tienne compte de ce qui est dit, ci et là, qui est pertinent pour améliorer la démarche d'une meilleure préservation et défense des intérêts de la République.
Merci. Merci, honorable Joseph Koyu. Nous sommes à la fin de l'émission, vous allez se conclure. Hein. Que faut-il faire pour justement En plus du fait que la mouture a été signée par les experts et qu'elle sera aussi signée par les ministres des Affaires étrangères le 27 juin, qu'un accord soit signé, et comme cela est prévu, au mois de juillet, de juillet plutôt, par les deux chefs d'État.
Bien.
Parce que Kasekwa l'a rappelé ici, les mêmes étapes ont été franchies à un moment donné, mais on s'est rendu compte qu'à la fin, quand les deux chefs d'État devaient apposer leur signature, cela n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne puisse pas connaître une telle situation?
Bien, merci. J'aimerais d'abord relever le fait que nous ne devons pas, nous qui sommes appelés à communiquer pour le peuple congolais, nous ne devons pas verser dans une communication sensationnelle et émotionnelle. Je n'ai pas dit ici que... Moi, j'ai fait...
Il faut répondre.
Oui, je vais répondre. Non, juste un élément. Je n'ai pas dit ici que moi, je ne peux pas faire allusion à tous les crimes qu'il y a, à toutes les tueries, à toutes les hostilités que nous avons enregistrées à l'est du pays. Je n'ai pas dit ça. J'ai fait des analyses objectives par rapport à l'organisation, au fonctionnement des États.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sauver... la situation, parce que il y a cette étape qui a été franchie.
Vous le savez.
Comment on peut faire pour que l'étape puisse nous aider à atteindre effectivement cette étape?
Vous le savez que le processus dans son entièreté repose sur la bonne foi, sur la volonté. Et donc, ici, nous n'avons aucun mécanisme de contrainte vis-à-vis du Rwanda. Le Rwanda, logiquement, devra afficher cette bonne foi, faire preuve de cette bonne foi. Nous-mêmes aussi, nous devrons faire preuve de cette bonne foi pour parvenir à la résolution de la crise. Je souligne un autre élément. Je le dis à l'introduction, que le fait que l'on mette en place ces processus de Washington et le reste ne dédouane pas le gouvernement congolais de sa responsabilité de réorganiser le système de défense, de mettre à condition l'armée pour parvenir à protéger l'intégrité de notre territoire. Nous devons quitter les terrains d'illusion et voir les choses en face, faire un diagnostic objectif sur les faiblesses que notre armée accuse et sur comment nous devons mettre tous les moyens en place, tous les leviers en mouvement pour parvenir à mettre en condition notre armée, justement pour assurer l'intégrité de notre territoire et assurer la paix sur l'ensemble de notre territoire.
Merci, honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Il faut que la paix puisse revenir, n'est-ce pas, dans la partie est du pays. En plus de cet accord en gestation entre les Rwanda et la RDC, quels sont les autres facteurs, les autres éléments qu'il faut ajouter, qu'il faut associer pour qu'on puisse effectivement avoir une véritable paix, une paix durable dans la partie est du pays?
Il n'y a pas de paix sans justice. Il est donc important que les organisations des droits de l'homme, tant au niveau interne qu'international, se mobilisent pour suivre de très près toutes les violations des droits de l'homme perpétrées dans la ville de Bukavu, dans la cité de Sake. Depuis toute une semaine, c'est du carnage à Goma. Et donc, ceux qui sont en train de négocier ne devraient pas aller simplement pour sauver un régime, mais doivent être préoccupés des graves violations des droits de l'homme, et la justice doit être un pilier important de la démarche. Mais également, on doit se mobiliser. Kigali considère la guerre à l'Est comme une menace existentielle. Kinshasa considère ça comme un fait divers, faut le dire. L'opinion doit se mobiliser, classe politique, société civile, pour faire pression sur Kinshasa, qu'en plus de l'arrêt des hostilités que nous pouvons obtenir de Washington, qu'un dialogue interne tel que piloté par les évêques et SSC soit organisé pour briser le manque de volonté de construction d'une paix durable.
Merci.
Qui a toujours caractérisé le dirigeant congolais de tous les régimes qui ont géré cette crise ici.
Merci, merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Joseph Koï, Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa et Martin Ziakwaou. Merci également à Étienne Lissoumbou qui l'a réalisé, assisté de Benjamin Moudoumbi et de Kéline Kouté. Pierre Diassino a été à la technique avec la participation de Clément Chimanga sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci encore et une bonne suite de programmes sur Radio Capitale.